c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Bergerac 95 avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Bergerac-Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale, porte de la Dordogne, à Cresse.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Bergerac 95 où vous nous écoutez eh bien chaque lundi à 19h par exemple sur le 95.0 du côté de Bergerac, Cresse ou encore Sainte-Foy-la-Grande. Pendant une heure, eh bien on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités et ça tombe bien, tout de suite voici le sommaire de l'émission.
On est vraiment bien sans
Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de votre émission, aujourd'hui, nous allons recevoir dans une poignée de secondes Marie-Clotilde Ramos-Ibanez. Elle joue le rôle de Sophia dans la série Ainsi Grand Soleil. Elle sera avec nous pour nous parler de son rôle. Nous aurons le plaisir également de recevoir Souk Davon et puis Olivier, la famille Gaïa, des familles nombreuses, leur vie en XXL sur TF1. Ils seront également nos invités, donc tout à l'heure. Nous aurons le plaisir de recevoir également Stéphane Stranou et Alix Poisson pour le téléfilm Disparition inquiétante. Ce sera diffusé mercredi soir sur France 2. France 5 également à l'honneur puisque demain soir sera diffusé un documentaire bien dans l'actualité, hein, Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit, réalisé par Walid Berissoul qui sera notre invité. Et puis en fin d'émission, un événement à ne pas manquer, Karine Lemarchand pour la première fois dans Chute on écoute la télé viendra nous présenter Opération Renaissance, son émission qu'elle présente et qu'elle produit. Rendez-vous à ne pas manquer, vous l'avez compris. Eh bien ça s'annonce chargé dans Chute on écoute la télé et on va tout de suite commencer avec les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et on commence par les audiences de lundi dernier, la série Sam qui faisait son retour sur TF1 devant 4 351 000 fidèles et 18,7% de part de marché. Cauchemar en cuisine sur M6 résiste bien à 13,2% de part de marché et 3 111 000 téléspectateurs. Et The B sur France 2 est à 2 637 000. Et puis pour le premier journal de 13h de Marie-Sophie Lacaro, eh bien c'est un carton complet avec 45,5% de part de marché et 6 442 000 téléspectateurs. La journaliste fait largement course en tête devant Julien Bugier qui fait à peine la moitié. Et puis mardi, il y avait SWAT sur TF1 et c'est deuxième, 4 089 000 téléspectateurs, 17,2% de part de marché. Et du coup devant, eh bien c'est le téléfilm 100% bio sur France 3 qui arrive en tête avec 19,7% du public et 4 696 000. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain qui s'intéressaient à notre sommeil ont intéressé 2 500 000 téléspectateurs qui ne se sont donc pas endormis. Et puis mercredi, eh bien il y avait Doc sur TF1. Les débuts de la série italienne ont été suivis par 4 141 000 téléspectateurs, 18,1% du public, quasiment coude à coude avec La Fugue sur France 2 et ses 4 110 000 téléspectateurs. Et jeudi, c'est un gros carton pour la série La Promesse qui réunit en moyenne sur les deux épisodes 7 100 000 téléspectateurs en moyenne qui ont donc vu les débuts de Sophia Issaidi et Olivier Marchal dans cette série événement. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur évidemment pour Ainsi Grand Soleil. On continue eh bien mettre en avant les comédiens et en même temps les personnages de votre série préférée du lundi au vendredi à 20h40 sur France 2. Et cette semaine, eh bien c'est Marie-Clotilde Ramos-Ibanez qui est avec nous dans le rôle de Sophia. Bonjour Marie-Clotilde.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Tout va bien. Bonne année à tout le monde d'ailleurs.
Eh bien oui, bonne année aussi à toi, pleine de bonheur et de tournage évidemment pour nous faire vivre des aventures. Voilà, on va dire avec beaucoup d'émotion la semaine dernière puisque ça y est, Élise a accouché. Évidemment, c'est un bonheur qu'on voit se dérouler en ce moment entre Sophia et Élise avec ce nouveau bébé.
Eh oui, c'est là on nage dans le bonheur. Ça y est, on a notre petite Charlie qui est là, qui est arrivée. Et oui, oui, Sophia est très heureuse, voilà, et Élise aussi, et on va voir comment ça va se passer, comment tout va se dérouler, quoi.
Exactement. Moi, je trouve ça bien dans une série comme ça de 20h40 de Prime, voilà, de mettre justement des familles monoparentales comme ça à l'honneur avec vraiment voilà des sujets d'actualité, des sujets de société pour faire tomber les tabous. Et moi, je trouve ça formidable que vous puissiez incarner ces histoires-là.
Oui, moi je suis très heureuse de pouvoir être pour la cause LGBT et je trouve ça vraiment très bien d'en parler, de pouvoir dire que oui, ça existe et il y a pas de problème et c'est pas grave et on peut être deux mamans avec un enfant ou deux papas. Bon là le cas c'est deux mamans et tout va bien, enfin tout va bien. Et comme dans toutes les familles, de toute façon, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, et on en parle très très bien et vous allez voir dans la suite, il va se passer plein de choses, mais c'est intéressant de pouvoir parler de ça. Et je suis très heureuse de faire partie de cette aventure.
Alors Marie Coltille, on sait toujours que dans ces séries-là, le bonheur est souvent de courte durée. Et il va s'en passer des choses dans les semaines à venir, mais on va y revenir dans un instant. Avant, on va revenir sur la scène de l'accouchement avec Malia. Il y a eu des moments de rigolade sur cette scène-là quand même. Ou alors on reste très concentré parce que moi, te connaissant un peu, ça a dû rigoler un petit peu quand même, non?
Alors pas du tout. Pour le coup, on était hyper concentrés. C'était vraiment, parce que c'était très compliqué de tourner avec un bébé, je sais pas si je dois le dire, mais c'était un faux bébé, ce n'était pas un vrai bébé. Et du coup, fallait vraiment rester concentré, surtout que Élise, a joué les contractions, c'est quand même pas simple, sachant que, faire un vrai accouchement, on n'a pas ri, hein, du tout, on était vraiment super
concentré.
Pour le coup, cette fois-ci, on était hyper concentré. C'était, puis en plus, c'est hyper émouvant. Et j'avoue que j'ai même eu la larme à l'œil. Ça m'a même ému. C'était hyper étrange de jouer cet accouchement parce que j'ai pas d'enfant, Malia dans la vraie vie non plus, et donc de vivre un accouchement comme ça et alors que c'était un faux bébé, j'ai même eu la larme à l'œil, j'étais vraiment émue et
c'était un moment émouvant.
On a pas du tout rigolé, ouais vraiment on s'est pris au jeu quoi, voilà.
Donc c'est chouette,
mais c'était très beau, hein. C'est très beau à tourner et c'était Amir le réalisateur pour cette scène. Et j'avoue que c'était très compliqué à tourner parce qu'il fallait montrer le bébé sans trop le montrer, comme c'était un faux bébé. Et ça marche bien. Pour le coup, on imagine la vraie petite Charlie, quoi, qui sort du ventre d'Élise. Voilà.
Alors, il y a eu un an, il y a eu un moment terrible que l'on a vécu dans un si grand soleil. C'était la disparition de Léa, évidemment, qui a impacté de nombreux personnages, dont celui de Virgile, interprété par Fred Bianconi, avec qui tu as partagé des scènes mémorables là aussi. Là, ça a dû être des scènes particulièrement douloureuses et difficiles, certainement, à jouer quand on connaît, après aussi, l'intimité que vous avez ensemble et puis la camaraderie que vous avez ensemble.
C'est un amour et c'est génial de tourner avec lui parce qu'il nous met tellement à l'aise. Et moi, je suis quand même une comédienne un peu plus jeune, jeune physiquement, mais aussi jeune dans le jeu. Et j'avoue qu'il m'emmène vraiment bien dans la bonne direction, que ce soit dans le drama ou dans la joie. Il est vraiment exceptionnel. Et c'est vrai que les scènes avec Léa, ça a été, pour le coup, c'était dur. En plus, c'est très dur à jouer parce que j'ai pas perdu de petite sœur. Enfin, c'était un peu comme ma petite sœur et je n'ai jamais vécu ça. J'avoue que de se mettre là-dedans, c'est intense parce que il faut y croire. Et là, en plus, j'ai demandé à Virgile d'être le parrain. J'avoue que ça envoie. Ça le renvoie à Léa, à la perte de sa fille et à tout ce qui va avec. Donc c'est vrai que pour lui, c'est assez intense et je pense que c'est bien qu'il m'ait fait jouer ça. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir pu prendre Virgile en parrain parce que c'est beau, ça montre qu'il fait toujours partie de la famille, même s'il est plus au sauvage, il est toujours là.
Vous avez tourné beaucoup de scènes ensemble, pour le coup, à la Payotte. Il t'a manqué,
oui.
Après, à la Payotte.
Ah bah oui, hein, il me manque beaucoup. J'avoue que il me manque parce que c'est même si Bertrand, j'adore, c'est hyper simple de jouer avec lui, mais Fred me manque énormément. Mais il va revenir un petit peu. Vous allez voir, il va revenir un petit peu.
Oui, il y a quelques scènes entre vous là, on le sent.
Voilà, il va revenir un petit peu parce que ça reste quelqu'un de la famille. Il fait partie de ma famille dans la série.
Alors la mort de Philou va revenir en pleine poire un peu en quelque sorte, de Sophia dans les semaines qui viennent, elle va devoir faire face pas mal de choses et pas mal de situations qui vont se compliquer évidemment pour les semaines à venir.
Ouais, là elle est vraiment dans la merde en fait, hein. Le bonheur n'aura pas duré longtemps. J'avoue qu'il va se passer pas mal de choses. Et oui, elle a déjà elle perd Léa. Après, elle perd son meilleur pote Filou. C'est compliqué quand même sa vie. Hein. Elle est pas, c'est pas simple. Hein. C'est bon, on ne parle, elle a pas le Covid, donc ça au moins c'est bien. Hein. Mais
pour l'instant,
mais j'avoue que là, c'est bon. Non, mais bon, on en parle dans la série, mais j'avoue qu'il y a aucun
oui, il y a pas de personnage. Non, il y a pas de personnage atteint par la maladie. Oui.
Bah, on en parle tellement dans la oui. dans la vraie vie.
C'est bien
hein,
de rester un petit peu en dehors. Je suis d'accord.
Voilà, les masques et tout ça. En plus, on joue avec des masques. Enfin, on joue avec des masques. On l'enlève avant de jouer, mais c'est tellement compliqué ce truc des masques. Ça fait du bien de je pense, en tant que public, de regarder une série où il n'y a pas tout ça, où on n'en parle pas tout le temps.
Oui, d'ailleurs, toutes les séries quotidiennes en ont fait ce pari. Hein. Et je pense qu'elles ont raison. Ça nous permet de sortir un peu de tout ça.
Ah bah oui, parce qu'on n'en peut plus. Mais il va partir, ce virus. Il va partir, faut le croire.
On espère.
Mais oui.
Bon, en tout cas, on va te retrouver évidemment ce soir pour un nouvel épisode inédit.
Oui,
on va découvrir la suite de tes aventures et croyez-moi, on va pas s'ennuyer dans les semaines à venir. Moi, j'ai vu, 2 semaines de résumé. Croyez-moi, pour Sophia, il va s'en passer de bien belle, mais on va vous laisser le découvrir à l'antenne sur France 2.
Oui, sur France 2 à 20h40.
Merci beaucoup, Marie-Clotilde, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, merci.
Franchement, vous auriez pu faire un effort pour trouver autre chose que cette défense complètement éculée.
La vérité n'est pas forcément originale.
Non, mais tu crois qu'à un moment donné, il sera capable de faire quelques compromis quand même?
Le labo vient d'envoyer ça pour vous.
Qu'est-ce que c'est?
Chut. Va falloir que je passe au bureau pour l'audition de l'IGPN.
Et dans un instant, on va retrouver la famille Gaïa, des familles nombreuses, leur vie en XXL sur TF1. Stéphane Strano et Alix Poisson sont avec nous pour Disparition inquiétante. Walid Berissoul également sera notre invité pour Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit. Et puis en fin d'émission, Karine Lemarchand qui sera notre invité d'honneur aujourd'hui à ne pas manquer. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite.
C'est bien connu, on dit. Que pour leur plaire, faut être joli. Comprends qu'il faut se taire quand on n'est pas du même avis. Et j'ai porté quelques jugements sur des bribes à quelques moments pour finalement en comprendre que je ne peux en faire autant. Un tel bel. C'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi? C'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise, t'es conne. Si tu restes en silence, t'es folle. Si tu prends la parole, mais moi, je sais ce que je veux devenir. C'est sur mes termes que je veux sourire. Dès que l'on est ton enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements sur ses contes, sur ses moments. Notre histoire n'est pas en jeu quand on est libre d'aimer qui on veut. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi? C'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise, t'es conne. Si tu restes en silence, t'es folle. Si tu prends la parole, mais moi, je sais ce que je veux devenir, c'est sur mes termes que je veux.
La télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé consacrés à familles nombreuses sur TF1 du lundi au vendredi à 17h25. On suit leur vie en XXL avec cette nouvelle saison inédite. Et l'occasion pour nous de s'attarder sur la famille Gaïa qui est avec nous. Souk, Olivier, bonjour à tous les deux.
Salut. Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous avoir tous les deux parce qu'on suit vos aventures maintenant depuis plusieurs mois sur TF1, les aventures de la famille Gaïa avec ses 9 enfants. On va dire que bien la vie de famille n'est pas toujours de tout repos chez vous, dites-moi.
Exactement, c'est une vie à 100 à l'heure en ayant une famille nombreuse. C'est vraiment tous les jours et toutes les minutes qu'il y a quelque chose à faire et
on arrête vraiment,
voilà, on n'arrête pas. C'est entre les sports, les courses, les devoirs, etc. C'est vraiment quelque chose à 100 à l'heure.
Alors moi, ce qui m'a frappé un petit peu, c'est que vous faites voilà quelques émissions télé depuis maintenant presque une dizaine d'années, puisque votre première émission remonte à 2011. Et j'ai l'impression que pour vous, en vous voyant à l'écran, c'est un vrai bonheur pour vous de faire partager votre vie aux Français, ce mode de vie atypique avec voilà des enfants plein la maison. 11 à la maison quasiment en permanence. Et moi, j'ai l'impression vraiment que vous le vivez bien de faire partager ça à tous les Français.
Exactement. Exactement. Ça, c'est notre kiff. C'est quelque chose qu'on a voulu faire et partager. Donc, au début, on avait commencé par plusieurs émissions. On a pris goût et on trouvait que les gens s'intéressaient beaucoup à notre vie. Et on a voulu développer encore ça encore plus. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait partager nos moments durs, nos moments fragiles, nos moments tristes, nos moments heureux. Et ça peut donner plein d'idées à plein de gens, plein de familles. Et c'est pour ça qu'on le fait avec le cœur. Et ben, en fin de compte, on est tellement heureux, le retour des gens, que ça nous rend encore heureux, quoi.
Voilà, exactement. Surtout qu'on est des familles qui sont différentes, en fait.
Voilà, c'est ça.
Et pour leur faire voir qu'on est différents des autres familles aussi.
Et qu'avec pas grand-chose, on peut faire des grandes choses.
Mais c'est ça qui me frappe aussi, c'est que vous êtes tous des familles, dans familles nombreuses, leur vie en XXL, vous êtes tous des familles différentes. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si de temps en temps, vous prenez des nouvelles des uns des autres, entre familles comme ça, ou est-ce que vous êtes déjà rencontrés, ou pas du tout?
Alors, pour répondre à votre question, sincèrement, aussi, si on a déjà rencontré des familles, on prend des nouvelles de certaines familles.
Voilà.
Donc, on a plus d'infinité avec une, avec d'autres, ce qui est tout à fait normal.
Oui, parce que ça a pu créer des amitiés, finalement, cette émission, du coup, entre familles.
Exactement, oui, exactement. On a eu des amitiés, on a eu même des rencontres. On se parle tout le temps, on part message et on partage notre vie. Pourtant, on est des vies différentes.
Ouais.
Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on a plein de choses en commun. Ben, c'est l'amour de nos enfants. Donc, peu importe comment on les éduque, toutes les familles nombreuses, la qualité qu'on a, c'est l'amour de nos enfants. Donc, c'est pour ça qu'on partage tout ça.
Exactement, c'est ça.
Quelle est la famille dont vous êtes le plus proche alors du coup?
Ah, il y en a pas mal. Hein. On a déjà discuté avec les Pélissards.
Santoro,
on adore les Santoro.
Et la famille, ça
et alors ça va être dur le nom, j'ai peur de déporter. Ils ont 11 enfants, ils sont extraordinaires, ouais, ils sont extraordinaires et on partage beaucoup de choses avec eux. C'est les Vandeur.
Vandeuro, je crois, je sais plus.
Oui, c'est Vandeur, je sais plus comment, mais je veux pas écorcher leur nom non plus.
Et qui met la maison aussi, c'est la famille
Beaufour
aussi.
Beaufour, voilà. D'accord. Bon, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, pour le coup, qui vous a donné envie de faire de la télé, de participer à des émissions comme ça, en famille? À quel moment c'est venu?
C'était par rapport à Olivia. Elle a commencé, en fait, avec son petit concours de chant qu'elle voulait faire.
Ouais.
Ça s'est déclenché comme ça, petit à petit, par rapport à ma fille Olivia, en fait. Et que après c'est là qu'on a passé des castings, tout ça. On nous a appelés, tout, pour voir si on était intéressés. Et c'est comme ça qu'on a pu faire plusieurs émissions.
Alors oui, justement, pour mettre l'accent sur Olivia, alors il faut savoir qu'elle chante, et très très bien d'ailleurs, mais surtout c'est aussi elle qui s'occupe un peu de toute la partie community manager de la famille. Hein.
Exactement, dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui est un peu différent, qui est le cerveau, on va dire, entre guillemets. C'est un compliment, bien sûr, et c'est Olivia qui s'occupe de beaucoup de choses dans la famille.
Elle gère plein de choses, c'est vrai qu'elle est vraiment forte pour ça. Mmh. Et c'est vrai que nous, vous savez, les réseaux, souvent... on ne connaît pas tellement grand-chose et à chaque fois, on compte un peu sur elle, c'est celle qui arrive à tout gérer.
Bon, alors concernant Olivia, vous nous avez tout dit ou pas?
Non.
Il y a eu une heureuse nouvelle pendant ces fêtes, non?
La plus belle chose qui puisse nous arriver en tant que parents, c'est d'être grand-père maintenant et grand-mère. Donc Olivia, elle a eu son bébé le 23 décembre et c'est la joie qui nous rend encore...
C'est du bonheur.
Plus fort, plus uni, on a un cœur encore plus grand et c'est quelque chose qu'elle nous a offert avec son copain, bien sûr. Et ça peut nous rendre un million de fois plus heureux, quoi. On est vraiment très heureux d'être grand-père, grand-mère à 46 ans. En plus, je trouve qu'on est jeune, donc on est vraiment très, 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 très heureux de ce beau cadeau de Noël 2020.
Et d'ici quelques années, il vaudra mieux pas qu'on soit encore limité à 6 personnes pour les réveillons de Noël, parce que chez vous, hein, ça va pas être assez, hein, clairement.
Alors ça, c'est une certitude. Bon, on a eu de la chance qu'on n'était pas trop, parce que de la chance, Olivia a accouché, donc on était beaucoup moins à la maison. Mais c'est vrai que les autres Noëls, en espérant que cette chose s'arrêtera un jour ou l'autre, cette maladie, et qu'on puisse tous se réunir.
Est-ce qu'il y a des moments, Souk et Olivier, où vos enfants disent stop, où il y a des moments de doute, où ils ont plus envie, parce que quand on arrive des fois à la période d'adolescent, on n'a pas forcément envie d'avoir des caméras braquées sur soi comme ça en permanence. Est-ce qu'il y a des moments où on a envie de dire stop aux caméras?
Tout à fait. Il y a des moments, moi je cache pas. Il y a des moments, c'est un peu dur parce qu'on a une vie privée et que des fois on a envie d'être un peu posé, mais c'est de courte durée parce que on a voulu faire ça, donc on assume les conséquences.
Bien sûr.
Bien sûr, tout ce qui va derrière, c'est comme nous faire moins de notre vie. Si demain on veut arrêter juste parce qu'on en a marre, on donne beaucoup aux gens, on donne beaucoup à la télé, donc ils nous le rendent bien, à nous de leur rendre bien aussi. Et c'est vrai que des fois, il y a des enfants qui veulent moins se faire voir, donc on les filme moins, mais sinon la plupart du temps, à 90%, on est tous
ok. On force personne. Voilà, on en parle tous avant de, quand il y a des choses à faire, tout ça, on fait une petite réunion, voir si tout le monde est d'accord ou pas, et voilà. C'est comme ça qu'on s'organise.
Bon, et la petite Jade, c'est la petite dernière ou pas alors?
La question bonus, c'est alors, il y a des jours vraiment, on désire vraiment avoir un autre enfant, alors on se dit, pourquoi pas, mais on n'a pas dit non ni oui. Quoi.
Voilà, moi je dis ça viendra quand ça viendra.
Bon ben voilà, comme ça c'est fait. En tout cas, on vous retrouve avec plaisir, hein, évidemment, du lundi au vendredi à 17h25 sur TF1. Y a un autre programme qui va bientôt prendre votre place d'ici quelques semaines, c'est Une famille en or. Est-ce que c'est un jeu auquel vous auriez envie de participer justement en famille aussi, dans cette nouvelle mouture qui sera présentée par Camille Combal?
Ah, ça aurait été du cœur, ouais.
Pourquoi pas, c'est intéressant, ça.
En plus, c'est en famille, et c'est quelque chose qui peut nous représenter, et franchement, je serais...
Et ça aurait été trop drôle.
Je serais très heureux de le faire, sincèrement.
Bon, l'appel est lancé, puis on vous retrouvera certainement après pour une saison 3. Vous avez envie de continuer ce programme?
Pourquoi pas, on nous propose avec plaisir, donc on verra bien tout ce qu'on nous proposera. Pour l'instant, on a la saison 2, et on verra bien la suite de ce qu'ils vont nous demander ou nous proposer, mais ça sera avec un très grand plaisir.
Bon, je vous remercie en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager ce moment, et puis on vous suit tous les soirs à 17h25 du lundi au vendredi dans Famille Nombreuse, leur vie en XXL sur TF1. À bientôt Olivier, à bientôt Souk, merci.
Merci beaucoup. Merci énormément. Au revoir.
Mon cœur le 6, c'est demain.
Après quelques jours de repos et de fêtes bien méritées, nos familles nombreuses sont de retour. L'année qui commence leur réserve bien des surprises.
Le secret qu'on cache avec Nicolas depuis quelques semaines.
6e enfant.
Veux-tu redevenir ma femme?
11 ans pour se marier quand même.
Et bien des événements vont bouleverser leur vie.
C'est aussi un hommage à nos grands-mères. Pour elles, c'est très important le baptême.
Les familles nombreuses sont de retour pour des aventures inédites dès lundi à 17h25 sur TF1.
Allez, coup de cœur télé consacré au documentaire Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit, qui sera diffusé demain soir sur France 5 à 20h50 et réalisé par Walid Berissoul, célèbre journaliste qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Walid.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Boris Johnson est en plein cœur de l'actualité, évidemment, avec le Brexit qui a eu lieu ce 1er janvier 2021. Mais on va repartir en arrière dans ce documentaire en commençant par février 2020 et l'annonce fracassante, évidemment, que l'Angleterre sort de l'Union européenne et toutes ses conséquences qui vont avec, jusqu'au moment où Boris Johnson va aussi devoir faire face à la pandémie. Vous avez retracé tout ce parcours durant 10 mois de Boris Johnson, hein.
Oui, c'est ça. Et surtout, cet incroyable télescopage entre le moment où Boris Johnson emmène la Grande-Bretagne hors de l'Union européenne et pense à ce moment-là qu'il a un boulevard et qu'il est en plein état de grâce avec une majorité très solide à la Chambre des communes. Et à ce moment-là, il voit pas venir ce mystérieux virus venu de Chine qui pourtant déjà sème un peu la panique dans plusieurs pays européens. On est début mars 2020, on a le meilleur de l'Italie, par exemple, qui est dans une situation très critique. Et lui voit dans un premier temps le Covid d'un peu loin. Et finalement, le Covid-19 va le rattraper son pays, le frapper de plein fouet et puis toucher Boris Johnson personnellement dans sa chair parce qu'il va tomber malade et même passer pas très loin de la réanimation. Donc il est quand même gravement touché à un tel point que le pays s'est retrouvé quand même un peu suspendu à l'annonce du 10 Downing Street de son éventuel décès. finalement il s'en sort. Et pourtant, alors que en quelques semaines le pays a totalement changé de visage, la crise économique est extrêmement grave, le nombre de morts dépasse celui des bombardements allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ben pourtant, il va pas déroger de son agenda, il va continuer son processus de Brexit, c'est-à-dire que en fait, il est censé à ce moment-là régler le divorce avec l'Union européenne et établir de nouvelles relations après le divorce du 31 janvier 2020. L'Union européenne, compte tenu de la crise du Covid, propose les équipes de Michel Barnier, du négociateur de la Commission européenne, leur propose ou leur suggère, compte tenu de la crise, peut-être de décaler un petit peu le calendrier. Le temps que tout ça se passe, et les Brexiteurs de son gouvernement et de sa majorité n'en démordent pas. Ils veulent absolument sortir de l'Union européenne définitivement, retrouver leur souveraineté. C'est un mot qui est beaucoup revenu dans l'actualité ces derniers temps, au faveur des négociations, et qui a été vraiment quelque chose qu'on a senti vraiment être le leitmotiv numéro un. La question qu'on se pose, nous, dans ce film, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils entendent exactement par souveraineté, et est-ce que le Brexit veut dire la même chose pour un pêcheur du Kent, ou pour un trader de la City, ou encore pour un ouvrier du nord-est de l'Angleterre.
Alors moi, ce que j'ai aimé justement dans votre documentaire, Walid, aussi, c'est que vous vous intéressez aussi aux conséquences avant même qu'elles arrivent, pour le coup, en partant à la rencontre, voilà, des pêcheurs par exemple, des traders. Donc vous interviewez pas mal évidemment de personnes qui vont être impactées par ce Brexit, et surtout depuis le 1er janvier là.
En fait, c'était l'idée de notre documentaire, c'était avec Florentin Collomb, qui était correspondant du Figaro pendant 9 ans à Londres, c'était lui et moi de d'écrire un film qui dresse le portrait à la fois d'un pays qui s'interroge. La moitié des Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne, mais l'autre moitié a voté pour rester dans l'Union européenne. Et donc, ils en sont toujours à cette interrogation, finalement, qui était là en 2016 et qui reste toujours présente aujourd'hui, en 2021, de est-ce qu'on a bien fait de sortir ou pas.
Ouais. On sent l'Angleterre divisée quand même, hein, sur cette question.
De toute façon, elle est polarisée et elle le sera encore pendant des années. Il faut pas oublier qu'il y a une partie du pays, notamment l'Écosse, qui est une nation du Royaume-Uni, qui, elle, a toujours été majoritairement pour rester dans l'Union européenne et qui aujourd'hui en fait un argument pour accéder à l'indépendance.
Exactement.
La question de l'Irlande se pose aussi, qui est très compliquée, mais que le Brexit a ravivé, parce que là aussi il y a des forces centrifuges qui tendraient plutôt à aller vers la réunification de l'Irlande, parce que justement l'Irlande du Nord a plutôt voté en faveur du maintien dans l'Europe, et que l'Irlande fait partie de l'Europe, donc la réunification ferait que du coup toute l'Irlande serait européenne. Donc en fait, c'est le portrait d'un Royaume-Uni qui du coup est de plus en plus désuni, et d'un personnage, Boris Johnson, qui lui a un profil quand même assez atypique, parce que en fait, on découvre, quand on remonte assez loin dans le passé, que c'est un Européen. Avant d'être le héros du Brexit, c'est le fils de Stanley Johnson qui a été un des premiers Britanniques à rejoindre la communauté européenne quand la Grande-Bretagne a fini par rejoindre l'aventure européenne en 1973, puis en 1975 avec le référendum. Donc lui grandit là-dedans, il grandit à Bruxelles avec des petits, des enfants de hauts fonctionnaires européens de tous les pays qui composaient à l'époque la communauté européenne, et il sort de ce creuset-là à l'âge de 11 ans pour intégrer Eton et ensuite Oxford, qui là, pour le coup, sont vraiment les centres de formation de l'élite britannique, et avec tout ce que ça veut dire en termes de poids, de l'histoire, de la grandeur du passé impérial, et de quelque part une sorte de nationalisme anglais, hein, et pas britannique, qui a aussi infusé, je pense, dans l'esprit du jeune Boris Johnson. Et en fait, c'est le portrait d'un personnage qui a senti l'opportunité à travers le Brexit, et qui, et ça c'est la question à laquelle on n'a pas forcément la réponse, mais que j'espère les téléspectateurs pourront essayer d'appréhender, qui a saisi ce Brexit, et dont on se demande aujourd'hui s'il n'est pas un peu piégé par ce Brexit et par cette trajectoire qu'a pris le pays.
Oui, par la décision qu'il a prise, finalement, on se demande ça. Et puis la famille royale dans tout ça.
Ah bah la famille royale, bah écoutez, elle est tenue à sa stricte neutralité. Tout ce qu'on sait, c'est que Boris Johnson, comme tous les premiers ministres, rencontre la reine une fois par semaine. Alors évidemment, depuis le Covid, c'est une rencontre qui n'est pas physique. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que quand il est devenu premier ministre en juillet 2019, il a rencontré la reine une première fois. Et normalement, les premiers ministres ne disent jamais ce qui s'est dit dans cet entretien. Et Boris Johnson, étant donné qu'il est, qu'il fait pas tout comme les autres, et qu'il est un petit peu iconoclaste et qu'il aime bien casser les codes, évidemment, a révélé ce que lui a dit la reine. Et ce que la reine lui a dit, visiblement, c'était, ça fait, je ne sais pas combien de premiers ministres que je vois, enfin, le premier ministre qu'elle a vu la première fois quand elle est arrivée sur le trône, c'était quand même Winston Churchill, en 1952. Donc depuis Winston Churchill jusqu'à vous, je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui vous pousse tous à occuper ce poste qui est quand même un des plus ingrats qui soit dans la politique britannique.
Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça va faire du grain à moudre pour les futures saisons de The Crown, tout ça. Je crois qu'on va dire.
Mais on attend la 5 et la 6, effectivement.
Ouais, bah là, on sera en 7 et 8, à mon avis.
7 et 8, ouais, c'est ça, exactement.
Eh bien, on va le retrouver, ce film, demain soir à 20h50 sur France 5. Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit. Un documentaire de Walid Berry-Soul, réalisé par Walid, à ne pas manquer, bien évidemment. On va se quitter avec la bande-annonce. Et à très bientôt, Walid. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous en prie. Merci beaucoup.
Let's get Brexit done.
Si on me dit encore une fois que Boris Johnson est le nouveau Churchill, je vais avoir la nausée, ok?
C'est juste un type drôle et un peu foutraque. C'est un grand acteur.
On a laissé Boris Johnson arriver au pouvoir parce qu'il nous fait rire. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on ne rigole plus.
Boris Johnson a très bien utilisé le Brexit pour arriver à ses fins.
C'est comme une bombe à retardement.
Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit.
Moi, je leur dis good luck, hein.
Un documentaire suivi d'un débat, mardi à 20h50, sur France 5.
Allez, vous avez découvert l'année dernière eh bien ce qui était le pilote d'une nouvelle collection pour France 2, Disparition inquiétante, avec aux manettes eh bien celui que vous connaissez en tant que président du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Mais là, c'est sa casquette de producteur que l'on va explorer aujourd'hui avant de recevoir Alix Poisson. C'est Stéphane Strano. Bonjour mon cher Stéphane.
Bonjour Alain, ça me fait très plaisir de te retrouver sur ton émission, je suis sur toute la télé.
Eh bien oui, ça fait plaisir en ce début d'année de te retrouver eh bien en tant que producteur avec cette autre casquette qu'on connaît peut-être un peu moins pour le grand public de toi, et une nouvelle collection que tu as démarrée l'année dernière. Et là, eh bien, un nouveau casting avec un nouveau téléfilm qu'on découvrira donc mercredi sur France 2, Instinct Maternel, avec Alix Poisson, Charlotte de Turckheim, Ryan Bensetti, du beau monde, dis-moi.
Ah oui, alors là je suis ravi de proposer, alors là pour le coup en tant que producteur et en diffusion le 13 janvier sur France 2 à 21h05, un film comme on les aime aussi au Festival de La Rochelle, mais ici il n'y sera pas. Je fais une petite parenthèse sur le Festival de La Rochelle parce que je voudrais dire à tes auditeurs que je me réjouis de les retrouver en septembre pour la prochaine édition du Festival de la Fiction de La Rochelle, parce que c'est important de le dire, ça me fait très plaisir et ça me semble être la bonne introduction.
Exactement, on a hâte de se retrouver.
On a hâte de se retrouver et j'avais hâte de le dire. Disparition inquiétante, c'est effectivement une collection qu'on a mise sur pied avec Johan Rigoulot et Arnaud Mercadier. Johan Rigoulot à l'écriture, Arnaud Mercadier à la réalisation. Et puis tous les trois, on est partis dans une aventure folle qui était de concevoir des unitaires polars de grande qualité tenus par des rôles féminins emblématiques.
Alors on va découvrir justement le personnage d'Esther, incarné par Alix, on va en parler avec elle hein, évidemment dans quelques instants. Et puis celui de Julia, c'est le personnage qui disparaît. Moi ce que j'aime bien dans tes films, c'est qu'il y a toujours une part quand même d'optimisme. On parle d'une disparition dès le départ, mais ça se termine généralement souvent bien. Et ça change par rapport effectivement au meurtre qu'on peut voir dans d'autres fictions, c'est alors... ça aussi qui change.
C'était ce qui a attiré, je pense, le regard d'Annel Metz, d'Anne Villiers et de Fabienne Langlois à France Télévisions, c'est que effectivement, on proposait un polar et il n'y avait pas forcément de mort. Il n'y avait pas forcément de mort. Il faut faire attention, parce que dans une disparition inquiétante, toutes les disparitions inquiétantes ne sont pas heureuses. Mais c'est vrai que jusque-là, on a exploré cette inquiétude et puis ces retrouvailles, parce que ça nous permet, à travers un polar, à travers une enquête, à travers un thriller, de traiter une histoire de société.
Alors c'est le thème de la précarité là, et d'une jeune fille de 17 ans qui vient d'avoir un bébé. On est vraiment sur le thème de la précarité aussi hein, et de cette jeune fille maman.
On est sur le thème de, je dirais, de l'instinct maternel pour commencer, parce que c'est le sous-titre de cet épisode interprété par Alix Poisson, et qui donne une sorte de réflexion générale sur ce qu'est effectivement l'instinct maternel dans toutes les strates de la société et dans quelles situations. Parfois, dans la précarité, on peut se retrouver et malgré tout défendre son instinct maternel.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, Stéphane, de développer cette collection?
L'envie, c'est évidemment de travailler avec Joël Rigoulot. C'est la première envie. Donc, j'avais écrit une petite histoire il y a quelques années en une page ou deux que je lui avais envoyé. Elle avait trouvé ça formidable. On avait commencé à développer quelque chose qui allait devenir Disparition inquiétante, premier épisode que vous avez découvert le 27 février de l'année dernière. Et avec elle, on a su construire des personnages extrêmement puissants, des personnages féminins, au poste clé de la police et de la justice, parce que c'est important pour nous de défendre quelque chose de nos sociétés. Et donc, on a trouvé un espace d'héroïsation de ces femmes françaises qui sont à ces postes-là de manière réelle, et qui est quelque chose de je trouve très puissant, très beau, qui fonctionne dans le cadre d'une belle histoire polar. Ouais.
Alors même, Stéphane, pour le coup, si c'est des unitaires, ça va être peut-être aussi des unitaires qui vont appeler des suites, comme ça va être le cas pour l'unitaire avec Sarah Forestier de l'année dernière, dont on verra la suite le 27 janvier prochain. Donc ça aussi, c'est le but d'explorer peut-être ces personnages sur plusieurs téléfilms.
Exactement, c'est tout l'intérêt de la collection. C'est-à-dire que c'est une sorte de moyen terme entre l'unitaire habituel de France Télévisions et la série qu'on connaît mieux. Ce sont des rendez-vous concrets, j'ai envie de dire plus humains, un peu comme j'ai l'habitude de travailler dans tous les domaines, c'est-à-dire en essayant de comprendre la demande, en essayant de travailler de plein cœur avec une chaîne qui est quand même enthousiaste et qui nous accompagne bien, qui nous permet d'imaginer la suite des aventures d'Esther Levansky avec Alix Poisson, c'est quand même un vrai bonheur. Et on a déjà des textes écrits. Et effectivement, on peut faire une, deux, trois histoires, quatre histoires avec un personnage. Et puis après, on peut s'ouvrir à d'autres formules et ne jamais se gêner dans ce que je voudrais être, un lieu d'attraction de casting un peu prestige, de casting absolument prestige, qui ne fait plus la différence entre le cinéma et la télévision. C'est ça qui m'intéresse.
On va découvrir, en tout cas, ce nouvel épisode avec Alix Poisson, Valérie de Cobert, Charlotte de Turckheim, Ryan Bensetti. Un beau casting, donc, mercredi à partir de 21h05 sur France 2, juste après Un si grand soleil. Et puis, on va recevoir Alix dans un instant. Merci, en tout cas, Stéphane, d'avoir été avec nous. On va écouter un petit extrait avant de recevoir Alix. Et on te dit à très bientôt. Rendez-vous du 15 au 19 septembre au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Enfin.
Merci Alain-Jeanne. Quelques belles tranches de sourire et de rire dans ce polar malgré tout, parce qu'on essaie aussi de recréer la vie. Voilà.
Eh bien, on va retrouver ça, puis on va évoquer ses souvenirs de tournage avec Alix dans un instant. Merci et à très vite, Stéphane.
Merci.
Bon, clairement, on est sur un délaissement de mineurs.
Mercredi soir, inédit.
Madame la procureure ?
Oui ?
Julia Royer, c'est une affaire prioritaire. Elle est mineure, elle a aucune raison de disparaître.
Lansky, vous avez été touché par le parcours de cette jeune fille, je comprends. Mais c'est désormais l'enquête de la commandante Costa.
Enzo, s'il est arrivé quoi que ce soit à Julia, c'est toi qui es suspect, en premier.
C'est le père de la petite.
Ouais.
On vient de repêcher le corps d'une femme dans l'île. Jeune.
Certaines disparitions sont plus inquiétantes que d'autres. Inédit, mercredi soir à 21h05 sur France 2.
Ce programme est disponible en audio-description.
Et voilà, donc, bien après cet extrait, on vous l'avait promis, et bien Alix Poisson est avec nous. Bonjour Alix.
Bonjour.
Merci d'être là. On va parler évidemment du rôle d'Esther, mais déjà, on va revenir un peu sur ton expérience, Alix, avec Stéphane Strano en tant que producteur. Une belle aventure que tu as vécue, hein, je pense, avec lui sur le tournage aussi.
Oui, tout à fait. Oui. C'est quelqu'un qui accompagne très fort les projets. Il déborde d'enthousiasme, mais il part toujours du principe qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc c'est vrai que je me suis sentie, et par lui et par Arnaud Mercadier, le réalisateur, très accueillie, quoi, très très enveloppée, très très attendue et tout. Donc c'était très très agréable.
Oui, après, vu comment on le connaît, nous, en tant que président du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, voilà, bah c'est quelqu'un, évidemment, qui est très attentif aussi aux autres. Donc on n'est pas très étonné.
Oui. Très chaleureux, très attentif, ouais.
Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans le rôle d'Esther ?
Ce qui m'a plu dans le rôle d'Esther, tout à coup, il y avait un événement extérieur qui la confrontait à elle-même. Donc, le fait que tout à coup, cette affaire éclate et que cette jeune fille disparaisse, en fait, ça faisait des ricochets beaucoup plus profonds en elle. Il n'y avait pas que l'enquête. Et donc, elle devient complètement obsessionnelle avec cette histoire parce que ça résonne très fort en elle et avec son problème sur la maternité. Sur l'instinct maternel. Donc ça, c'est toujours passionnant à jouer quand l'événement déclencheur est un prétexte pour parler de choses plus profondes et du coup de montrer la faille d'un personnage. Donc ça m'intéressait. Et le deuxième truc que j'aimais beaucoup, c'est que c'était un personnage qui déborde, qui est hyper excessif. elle a un côté parfois too much, où elle fait pas très attention aux gens. Elle peut faire attention aux gens, mais parfois non. Elle a un côté char d'assaut comme ça. Elle est d'une mauvaise foi à toute épreuve. Elle est têtue. Elle peut être autoritaire. Et les gens lui disent d'ailleurs qu'elle prend beaucoup trop de place. Et ça, c'est très jouissif à jouer.
Alors, on démarre l'histoire, évidemment, du côté de Strasbourg, hein, par cette jeune fille qui disparaît. Toi qui quitte ton poste, hein, en fait, qui part normalement pour Bordeaux, jusqu'au moment où cette jeune fille disparaît, et avec qui tu étais en lien depuis un bon moment, et va s'ensuivre, évidemment, toute cette enquête que toi, tu ne devrais pas mener en parallèle de l'équipe qui te succède. Et évidemment, ça va créer quelques cafouillages et une belle histoire que l'on va découvrir tout au long de cet instinct maternel, de cette disparition inquiétante. Qui, j'espère, finira bien. C'est ce qu'on verra, évidemment, dans le film mercredi soir. Alix, est-ce qu'il y a une scène particulière, toi, qui t'a marqué dans ce téléfilm, sur le tournage?
Oui, je pense que c'est la scène où... il y en a plusieurs qui étaient très chouettes, mais je pense que c'est la scène où Esther et Malek, son mari, se disputent parce qu'elle a oublié d'aller chercher les enfants au judo, parce qu'elle est complètement happée par son histoire, et qu'en fait, de cette dispute, découle un craquage de la part d'Esther qui on découvre qu'en fait elle est stérile, qu'ils ont été obligés, enfin qu'ils n'ont pas été obligés, mais qu'ils ont choisi d'adopter ces enfants, et que elle a un problème, elle se sent jamais légitime en tant que mère. Et je trouvais on l'a beaucoup retravaillé, on a réécrit certains bouts, on a passé beaucoup de temps à la table autour avec Arnaud en amont. On a passé beaucoup de temps le soir même où on l'a tourné, parce qu'on voulait que ce soit un vrai moment entre deux. Et j'aime beaucoup cette scène parce que je pense qu'elle raconte quelque chose qui peut parler pas seulement à toutes les mères, mais peut-être à toutes les femmes et peut-être aussi à tous les hommes. C'est-à-dire, mais particulièrement pour les femmes quand même. C'est-à-dire cet endroit où, tu vois, dans le téléfilm, par exemple, bon, bah, Esther, elle est stérile, donc elle a adopté, donc la société lui fait sentir qu'elle est pas une bonne mère. Mais ouais. En même temps, Julia, qui a complètement l'instinct maternel, parce qu'elle est jeune et parce qu'elle a pas une situation appropriée, on part du principe qu'elle sera forcément une mauvaise mère. Enfin, tu vois. Et il y a un côté comme ça, ça raconte aussi toutes les projections de la société sur l'instinct maternel et sur ce que doit être une bonne mère, qui parfois écrase les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes, et donc il faut sortir. Et j'aime beaucoup l'idée que le titre instinct maternel soit au pluriel, comme s'il n'y avait pas qu'un seul instinct maternel, mais il y en a des multitudes, et chacune peut le construire à sa façon aussi.
Alors, voilà. Tu avais déjà été à l'affiche de L'enfant que je n'attendais pas. C'est vrai que tu as souvent de jolis rôles comme ça, de maman écorchée vive. Ça a dû te rappeler aussi quelques souvenirs pour le coup.
Oui, tout à fait.
Même si c'est pas du tout la même histoire, hein, bien sûr.
Non, pas du tout. C'est-à-dire que là, on était vraiment sur un sujet très très spécifique, qui était le déni de grossesse et comment c'est, à quel point c'est méconnu, un peu moins maintenant, mais quand même. Après, oui, ça questionne quand même toujours cette question-là, c'est-à-dire à quel point la société voudrait que ce soit inné,
ouais.
Et que si on ne répond pas à cette injonction, alors on ne rentre pas dans la bonne case et on va être stigmatisé. Et je pense que c'est un des grands combats qui a mené aussi pour l'égalité parfaite de la femme, quoi. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose comme ça où il faut continuer à lutter contre ces injonctions permanentes sur la maternité, parce qu'il y a un côté comme ça où c'est l'ultime tabou. Enfin, je veux dire, la mauvaise mère. Quand j'ai fait le film sur l'affaire Courgeot, en plus, enfin, tu vois, il y avait le côté, c'était carrément l'infanticide, donc c'était forcément une mauvaise mère. Sauf qu'on découvrait que c'est toujours plus complexe que ce que la société veut nous faire croire.
C'est pas tout noir ou tout blanc.
Non, on découvrait que Véronique Courgeot, elle avait déjà deux enfants et qu'elle était vraiment une bonne mère avec ses deux enfants. Donc c'est souvent beaucoup plus complexe et c'est ce qu'on avait appris pendant le procès de Véronique Courgeot. Il y a une femme qui disait mais chaque grossesse est unique parce que ça intervient à un moment de la vie unique de chaque femme. On peut pas cocher les cases, c'est pas possible.
Est-ce que tu as des projets pour 2021? Est-ce que tu as pu tourner, malgré ce Covid, des choses en 2020 dont...
Oui, j'ai cette chance incroyable et vraiment, je me sens extrêmement
chanceuse
de ce côté-là. Je suis en plein tournage de Germinal.
Oui.
Voilà, qui va être une belle série pour France Télévisions en 8 épisodes, une adaptation de Germinal, donc d'époque. On est en plein dedans et on se régale. Et ensuite, au printemps, je vais tourner la saison 2 de Jeux d'influence.
Oui. Il y aura 6 épisodes à nouveau pour Arte?
Oui, a priori, je crois que c'est ça.
On sera là pour en faire l'écho, bien évidemment, comme d'habitude, Alix. Tu sais, t'es la bienvenue quand tu veux.
Avec plaisir.
Je te dis à très très bientôt. On te retrouve donc mercredi juste après un si grand soleil à 21h05 sur France 2 pour Disparition inquiétante aux côtés de Ryan Bensetti, Charlotte de Turckheim, Valérie de Cobert et plein d'autres encore dans ce téléfilm intitulé Instinct maternel. À très bientôt Alix et merci à toi d'avoir été avec nous.
À très bientôt. Merci beaucoup.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et dans un instant, dernière partie de notre émission avec Karine Le Marchand qui sera notre invitée exceptionnelle. Alors à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite.
We get almost every night, when that moon is big and bright, it's a supernatural delight, everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight.
On écoute la télé, chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré à Opération Renaissance, c'est ce soir à 21h10 sur M6 et on a le grand bonheur de l'avoir pour la première fois dans Chut, on écoute la télé. C'est Karine Le Marchand qui est avec nous. Bonjour Karine.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Je suis très très heureux de vous avoir, Karine.
Ben, moi aussi.
Alors, Opération Renaissance, je sais, Karine, que c'est un programme qui vous tient très, très à cœur. On va évoquer, évidemment, L'amour est dans le pré, La France a un incroyable talent, toutes ces émissions qu'on a un bonheur à regarder avec vous. Mais Opération Renaissance, ça a une saveur particulière parce que c'est déjà un programme que vous produisez et évidemment qui va apporter toute l'émotion que vous savez amener dans une émission en donnant la parole à des gens qui ne l'ont pas habituellement.
Oui, absolument. Ça fait 5 ans que je le porte. Ça y est, il est temps maintenant que les enfants quittent le nid. Et que je montre enfin à toute la France combien les personnes qui ont travaillé avec moi étaient formidables et courageuses et méritantes. Et je pense qu'elles peuvent apporter beaucoup à ceux qui sont dans le doute et qui vont peut-être regarder ce soir.
Mais j'imagine, alors on va suivre le parcours dans ce premier épisode de Stacy et Elodie. Mais ils sont 10 en tout, puisqu'il y aura 5 soirées en tout. Mais déjà, concernant ces deux jeunes filles dont on peut que tomber sous le charme au premier abord, parce que voilà, elles ont des parcours de vie assez incroyables et puis une envie, une combativité qui force l'admiration.
Ouais, complètement. Elles sont solaires, elles sont lumineuses, elles sont toutes mignonnes et je trouve c'est comme si elle sortait un petit peu d'anonymat parce que il me semble que le regard des gens sur les personnes obèses ne s'arrête pas. Comme si ils n'avaient pas de visage. En tout cas, c'est une sensation qu'ils ont. C'est que soit on les regarde avec agressivité, soit on ne les regarde pas. Et tout d'un coup, je trouve que de donner la parole à Stécie, à Élodie, sur leur parcours, sur leur quotidien, sur la façon dont elles font face au regard des autres, tout d'un coup, ben, on s'arrête et on se dit « mais elles sont géniales, ces filles !» Et puis, je les trouve tellement belles et bien au-delà, je veux dire, de la minceur au début. Je les trouve belles avec leurs kilos aussi. Elles se battent pour être en bonne santé, en fait. C'est pas une question d'esthétique seulement.
Alors, on va les suivre pendant 3 ans dans un parcours difficile avec une chirurgie de l'estomac pour pouvoir retrouver voilà une vie normale avec moins de risques pour la santé aussi. Elles vont être entourées par de nombreux spécialistes et des coachs dans l'émission justement, et on va suivre leur parcours hein, tout au long évidemment de cette aventure. Et bonus, en deuxième partie de soirée, on va faire le bilan avec elles, un peu comme dans Amour et dans le Pré, on va faire le bilan évidemment de ces 3 ans d'aventure aussi.
Complètement, elles reviennent sur leur parcours, elles se sont oubliées en fait, elles savent d'où elles viennent évidemment, ça ne s'oublie pas, mais elles nous ont oublié comment elles étaient 3 ans auparavant, et d'ailleurs je leur fais toutes écrire une lettre au début de l'histoire qu'elles relisent des années après. C'est tellement fort de voir quels étaient leurs rêves, qu'elles-mêmes s'en souviennent et qu'elles voient comment elles ont évolué avec leurs proches. Et voilà, parce que dans chaque émission, effectivement, on voit 3 ans d'une vie, donc on voit la progression. C'est pas comme des épisodes qui se suivent. À chaque fois, c'est 2 personnes différentes. Voilà.
On remonte en 2015. Karine, comment est venue l'idée, justement, de faire ce programme et de s'intéresser à ces personnes-là? Comment vous est venue cette idée-là?
Moi, je suis toujours à la recherche d'idées. Donc, j'ai tout le temps le cerveau en ébullition sur des sujets qui m'intéressent. Un jour, j'avais discuté avec un chirurgien esthétique qui faisait de la chirurgie réparatrice et qui était spécialisé dans la réparation des corps qui avaient perdu beaucoup de poids rapidement. Et j'ai découvert, il m'a montré des photos, il m'a montré des lettres. Tous parlaient de renaissance et j'ai vu combien, en fait, perdre 40, 50, 100 kilos en un temps rapide, ça avait des conséquences esthétiques assez étonnantes et combien ces personnes qui avaient fait l'effort de changer, finalement, n'aimaient pas leur nouveau corps sans la chirurgie. En partant de ce chirurgien-là et de ce témoignage, je suis remontée à l'origine de la chirurgie qu'on appelle bariatrique, qui est arrivée il y a 15 ans à peu près en France, et qui consiste à faire une réduction de l'estomac, en tout cas à empêcher la personne de manger mécaniquement de grosses quantités et qui enlève la sensation de faim. Bref, et en fait voilà, là je me suis rendu compte que je connaissais rien du tout à l'obésité, qu'effectivement il y avait des millions de personnes, parce qu'on parle de l'obésité, mais il y a aussi le surpoids qui amène à l'obésité, et là on est sur 1 Français sur 4, de plus en plus de jeunes, etc. Il y a quand même un problème. Et il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse de la prévention, il faut qu'on explique ce qui se passe dans la tête, dans le corps, dans pourquoi est-ce qu'on devient obèse et comment est-ce qu'on en sort. Et du coup, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai rencontré des gens petit à petit. Quand j'ai eu le sentiment de comprendre en fait les choses, j'ai dit il faut qu'on fasse une émission. Et je savais que c'était sur du long terme qu'on arriverait à vraiment montrer les rebondissements, les difficultés des gens, leur combat, leur courage, et non pas en 6 mois. Et donc, voilà, je suis allée frapper à la porte de mes patrons et je leur ai dit, j'ai envie de faire cette émission, mais ça va durer 3 ans. Et ils m'ont dit, on te suit. Voilà. Et c'est la première fois qu'on fait une émission qui dure 3 ans.
Oui, ça c'est clair. On va écouter la bande-annonce, on revient tout de suite après, Karine.
Oui.
Mon ventre, il prend le soleil pour la première fois de sa vie.
Je me sens bien, belle, heureuse, épanouie.
Ces personnes, il y a à peine 3 ans, étaient obèses morbides. En quelques mois, elles ont perdu entre 40 et 70 kilos et découvrent le bonheur de vivre en bonne santé. Ce soir, nous vous proposons un programme inédit. Pour la première fois à la télévision, nous avons suivi pendant plusieurs années le parcours de 9 femmes et un homme dans leur combat contre l'obésité.
J'ai envie d'être fière d'aller le chercher à l'école.
Ça peut s'améliorer.
C'est pas que ça peut, c'est que ça va s'améliorer.
Ils avaient suivi des dizaines de régimes et tout tenté auparavant pour perdre du poids.
Je suis partie sur un régime, un premier. Et puis ça a été le démarrage, l'engrenage.
Lorsque nous les avons rencontrés, ils s'étaient engagés dans un parcours de chirurgie de l'estomac depuis déjà de nombreux mois.
J'ai envie de vivre. Là, je survis, là.
Voilà, la bande-annonce, donc Opération Renaissance, c'est ce soir à 21h10 sur M6. Karine, est-ce que c'était facile à trouver des témoins, justement? Est-ce que ça a été difficile pour eux de se livrer? Même si pour moi, je pense que vous êtes la meilleure animatrice pour ça, hein, pour pouvoir justement faire que les gens se livrent plus facilement, peut-être.
J'ai pas eu de difficulté à trouver des témoins qui avaient envie aussi qu'on leur donne un coup de pouce au-delà de ce qui existait, parce qu'elles avaient vraiment envie de réussir leur pari contre elles-mêmes. Et puis c'est vrai qu'elles me connaissaient tous de la télé, enfin, ils me connaissaient tous de la télé, donc ils savaient aussi que j'allais fallait juger, tout pouvoir écouter,
avec bienveillance.
Les entourer, enfin, oui, voilà, évidemment, avec ce que je suis. Et donc, là-dessus, je pense que ça a un petit peu aidé. La difficulté a plutôt été de trouver des témoins qui d'abord soient acceptés par la sécurité sociale, parce qu'on a commencé à travailler avec beaucoup de gens qui n'ont pas pu aller jusqu'à l'opération. Et puis ensuite, la difficulté, c'était de trouver, en fait, des gens qui avaient des histoires différentes. Moi, j'avais envie qu'au terme de ces 10 témoins, on comprenne l'entièreté de la problématique. Et donc, on est des gens qui n'avaient jamais été gros jusqu'à un certain âge, d'autres qui avaient toujours été en problème de surpoids, d'autres c'était suite à un choc ou une grossesse ou le yo-yo tout simplement. La première cause de l'obésité, c'est des régimes restrictifs quand même, faut pas oublier de le dire. Et en fait, j'avais besoin aussi d'avoir des gens qui développaient des différentes pathologies de santé, hypertension, diabète, apnée du sommeil, problèmes vasculaires, problèmes hormonaux. Une fois qu'on avait une personne qui était diabétique, on n'en cherchait pas une autre. Donc, c'était difficile à ce niveau-là parce que, voilà, je voulais qu'il y ait de tout.
Alors, ils vont avoir un livre de chevet, ces candidats, qu'on va découvrir dans l'émission. Un livre qui s'appelle 15 étapes pour apprendre à s'aimer, que vous avez écrit, Karine, et qu'on peut se procurer, donc, là, maintenant, sur le site 15étapes.com. C'est l'unique endroit où on peut se procurer ce livre. Donc, retenez bien le site.
Oui, pour l'instant.
15étapes.com pour le moment.
Mais c'est pas que pour les obèses. Là, pour le coup, c'est effectivement un livre qu'on a écrit pour les témoins, qu'ils ont vraiment travaillé avec attention. C'est un livre d'activité, comme un peu ludique pour les gens qui n'arrivent pas à faire l'introspection, aller voir un psy. Ça va les obliger à cocher des cases, à identifier leur mal-être, les gens qui leur ont fait du mal, mais aussi leur qualité. Ça va leur donner plein d'astuces pratiques pour apprendre à s'aimer pas à pas. Mais je l'ai réécrit pour que ça ne concerne pas que des gens qui doivent perdre du poids.
C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle 15 étapes pour apprendre à s'aimer, parce qu'en fait apprendre à s'aimer, c'est pas forcément pour les obèses, mais ça peut être pour n'importe qui.
Ah bah non.
Et évidemment.
Ah bah oui.
Ça peut être un soutien.
Oui.
On va retrouver donc ce programme ce soir pour quelques semaines en tout cas sur M6, prendra la suite certainement courant mars les nouveaux portraits également des agriculteurs dont vous êtes certainement en train de terminer le tournage en ce moment. Ça y est, c'est fini.
C'est fini la semaine dernière.
Eh ben voilà, on va avoir donc une belle salve encore hein, pour cette 16e, hein, je crois, c'est 16e saison là.
16e saison,
et
absolument.
Oui, déjà de ce programme auquel on est tant attaché, L'amour est dans le pré, qui reviendra bien évidemment, avec son lot voilà d'émotions. On aura la larme facile encore. Hein. Moi, alors j'ai eu mon petit couple coup de cœur, hein, Karine, que je voudrais partager avec vous, c'est Jérôme et Lucille.
Mathieu.
Et Mathieu et Alexandre aussi.
Jérôme et Lucille.
Oui, mais Jérôme et Lucille et Mathieu Alexandre sont vraiment les deux couples qui nous ont fait vibrer cette année.
Hein. Ils étaient super. Ah, mais quel bonheur. Franchement, on fait un beau métier. Hein.
C'est clair. C'est clair. Et puis, la France a un incroyable talent aussi. Ça y est, les castings sont repartis.
Oui. Ah, bah, le casting est reparti. Moi, j'attaque au mois d'août. Là, je suis tranquille jusqu'au mois d'août.
Oui, tranquille. Enfin, presque, hein, puisqu'il y a l'amour est dans le pré entre les deux.
Ah, oui. Oui, non. Et puis, plein d'autres choses, en plus, qui vont arriver.
Alors, moi, j'espère une chose quand même. C'est que pendant les speed dating, vous serez là encore. Parce que franchement, les speed dating, ils ont pas eu la même saveur, franchement, avec vous. Sans vous, ça nous manquerait vraiment trop à l'avenir. C'est pas possible.
En fait, les gens, ils aiment bien que je ramène ma fraise. Hein.
Toujours. Cool, hein. Ah mais oui, parce que c'est important. La jovialité, la bonne humeur, voilà,
bon,
ça fait du bien.
C'est prévu.
Bon, mais on va suivre ça. En tout cas, voilà, c'est parti. Opération Renaissance, ce soir, 21h10, premier rendez-vous. On va découvrir les portraits de Stacy et Elodie. Voilà, ne pas manquer, évidemment.
Ouais.
Et puis, on reste en contact. Karine, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir. Merci, je vous embrasse.
Je vous embrasse très fort et puis à très, très bientôt.
Moi aussi. Au revoir.
Au revoir.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Le groupe 21 juin, le duo, seront nos invités pour nous parler de leur candidature à l'Eurovision. Nous aurons également le plaisir de prendre des nouvelles de Franck Sémonin, plus plein d'autres surprises, bien évidemment. Alors restez connectés avec nous. Allez, n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec la quotidienne à 11h40 sur Bergerac 95. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple. Rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute, on écoute la télé. Et vous pouvez bien télécharger dès maintenant notre application Chute, on écoute la télé pour iPhone et Android. Je vous retrouve également lundi prochain à 19h pour la Grande Hebdo. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Bergerac 95.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Bergerac Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale, porte de la Dordogne, à Cresse.
Chut.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.